Alors, pour le message de ce matin, frères et sœurs, je vous propose deux portions des Écritures. La première tirée donc du livre des Actes, Actes chapitre 1, verset 8, que nous avons entendu lecture tout à l'heure, Actes 8, et ensuite la deuxième portion dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Actes 1, 8, Éphésiens 1, 13 à 14. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons faire silence au-dedans de nous. Nous voulons faire silence tout autour de nous pour que nous puissions vraiment entendre ta voix à travers l'écoute de ta parole. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est cette parole que nous voulons à présent entendre. Que le Saint-Esprit nous fasse entendre cette parole au plus profond de nous et que nos cœurs, justement, en soient sensibles. Que nos cœurs soient comme ces bonnes terres qui reçoivent la semence et aussi qui permettent à la semence de se multiplier. Et qu'il y ait, Père éternel, des fruits abondants qui découlent de nos vies de tous les jours. Nous te rendons grâce pour le privilège vraiment que nous avons d'être dans ta présence, d'écouter ta parole, de te célébrer, de t'adorer. Quel bonheur, quelle joie, quelle grâce lorsque nous réalisons que nombreux n'ont pas eu cette grâce-là. Nous te disons merci aussi pour nos enfants afin que tu touches leur cœur à travers l'écoute de ta parole. De sorte qu'en grandissant, que nos enfants aussi ne s'écartent point du chemin que tu as tracé pour chacun d'entre eux. Mais au contraire, qu'à un moment donné, qu'ils te confessent justement comme leur seul Seigneur et Sauveur. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Au nom de Jésus.
Amen.
Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous lever pour écouter la lecture de la parole de Dieu, une façon de faire honneur à la parole. Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ensuite, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14, « En lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Amen. Venir vous asseoir dans sa salle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons donc ce jour la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte qui symbolise la descente du Saint-Esprit. Combien il est donc important de comprendre, de saisir pourquoi l'Église doit célébrer Pentecôte. Nous célébrons Noël, nous célébrons Pâques, mais nous célébrons aussi Pentecôte. Et pourquoi l'Église doit célébrer Pentecôte? D'abord, ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est que Dieu a très bien organisé les choses. En tout cas, Dieu, notre Dieu, est un Dieu merveilleux. Il a très bien organisé les choses. C'est un Dieu, j'aime à le dire, stratège. Vous voyez, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont tous Dieu. Trois personnalités en un. Et dans l'histoire du plan de salut de l'humanité, voyez, nous pouvons donc distinguer trois grandes périodes, trois grands moments importants. Dans la première période, c'est le Père. C'est le Père qui initie le salut. C'est le Père qui conçoit le salut aussitôt, justement, après la chute de l'homme. Souvenons-nous, Genèse 3,15, Dieu qui parle au serpent. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Première grande période, je disais, c'est Dieu le Père qui conçoit le plan de salut de l'humanité. Dans la deuxième période, c'est Dieu le Fils qui est venu dans le monde pour accomplir le plan que Dieu le Père avait conçu, le plan que Dieu le Père avait initié. C'est le Fils qui est venu l'accomplir sur terre pour que les hommes soient sauvés. Enfin, la dernière période, donc celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu justement pour faire quoi ? Le Saint-Esprit est venu pour, en quelque sorte, actualiser, je l'ai déjà dit la fois dernière, le Saint-Esprit est venu pour appliquer, voilà le mot, il est venu pour appliquer dans nos cœurs, dans nos vies, le salut qui nous a été obtenu à la croix de Golgotha. Le Père conçoit, le Fils accomplit, et le Saint-Esprit applique. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu pour permettre à ceux qui vont croire à l'œuvre de la croix, à ceux qui vont croire en Jésus, leur permettre de devenir des témoins. Comme dit Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins. Alors, comment devient-on témoin ? Un témoin, frères et sœurs, est celui qui a vu. Un témoin, c'est celui qui a assisté, en quelque sorte, à un événement. Mais je veux ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y a deux sortes de témoins lorsque la Bible parle de témoins, vous voyez, qui est ce qu'on appelle des témoins oculaires, des témoins qui ont vu Jésus, le Christ, ressuscité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, comme Pierre, Jean, ils ont vu le Christ ressuscité de leurs propres yeux. Ce sont les témoins, mais une autre dimension, un témoin, c'est aussi celui qui a vu à la manière de Paul. L'apôtre Paul n'a pas vu Jésus dans la chair, ni pendant sa résurrection, mais il a rencontré le Christ-Esprit sur le chemin de Damas. Il a été fait témoin aussi de la résurrection, au même titre que Jean et Pierre, qui eux ont vu Jésus de leurs propres yeux. Donc, un témoin, je disais, c'est celui qui a vu, un témoin, c'est celui qui a assisté à un événement. Mais au-delà de celui qui a vu, au-delà de celui qui a assisté à un événement, un témoin est celui qui est devenu lui-même l'événement. Oui, il faut que tu deviennes l'événement. Il faut que tu deviennes cet événement de la résurrection. Pour être témoin, nous dit la Bible. Jésus a dit à Marthe, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, il était question de la résurrection de Lazare. Jésus a dit à Marthe, au sujet de la mort de Lazare, il a dit, ton frère ressuscitera. Ah, Marthe a dit, mais je sais, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Vous voyez ? Mais Jésus lui a dit quoi ? Jésus lui a dit, je suis la résurrection. Mais il n'était pas encore mort, mais il dit, je suis, c'est moi l'événement de la résurrection. Ce dont tu parles là au dernier jour, je le suis devant toi. Je suis cet événement. Oui, il faut être l'événement. Donc il n'y a pas de témoin sans devenir. Il faut devenir l'événement. Il n'y a pas de témoin sans devenir. Cela veut dire que la période que le Saint-Esprit a inaugurée à la Pentecôte, cette période dans laquelle nous nous trouvons, c'est pour actualiser, c'est pour appliquer, faire en sorte que ce que tu as vu, je dis bien faire en sorte que ce que tu as vu, que tu le deviennes. Ce que tu as vu, que tu le deviennes. Ce que tu as entendu, que tu le deviennes. C'est-à-dire qu'à travers la puissance de l'Esprit sur toi, voyez que tu ne témoignes plus de Jésus. À travers la puissance de la résurrection sur toi, tu ne témoignes plus de Jésus, mais tu deviens la preuve que Jésus est vivant. Tu ne témoignes plus, tu es la preuve vivante que Jésus est vivant. Lorsqu'on te voit, on peut réaliser justement que Jésus est vivant. Lorsqu'on te voit, lorsqu'on t'observe, on peut constater à travers ta vie que ce que la Bible dit est la vérité, parce que tu deviens une Bible ambulante, une Bible ouverte que les gens peuvent utiliser pour lire la parole de Dieu. Oui. Autrement dit, tu deviens. Tu deviens. Mais pour devenir un témoin, le Saint-Esprit doit d'abord impacter ta vie. Le Saint-Esprit doit impacter ta vie afin de t'amener à devenir un événement. On comprend par là que si le Saint-Esprit n'était pas venu, si le Saint-Esprit n'était pas venu, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut connaître, en tout cas de la Bible, de Dieu, reste de l'ordre de la théorie. Reste de l'ordre de la théorie. En effet, le Saint-Esprit est le lien. Le Saint-Esprit est le lien entre ce qui est légal et ce qui est expérimental. Je l'ai dit la fois passée quand on a parlé des 9 échanges qui a eu lieu sur la croix, sur la base d'Ésaïe 53, ce sont des bénédictions que Dieu a mis à notre disposition. Mais pour que ces bénédictions puissent nous arriver dans notre vie, nous devons faire un effort de nous les approprier. C'est-à-dire que c'est du domaine du légal, mais il faut que nous fassions en sorte que ça devienne de l'expérimental. Voyez, que nous puissions expérimenter ces bénédictions dans nos vies. C'est ça. Donc, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est le lien entre ce qui est légal et ce qui est expérimental. Ce que l'on peut expérimenter dans nos vies. Pour le dire autrement, le Saint-Esprit est le lien entre ce qui est théorique et ce qui est pratique. Vous savez que la Bible, ce n'est pas la théorie. Quand vous lisez la Bible, c'est pratique. C'est des choses que vous pouvez vivre, que d'autres ont aussi vécu. Ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Sans lui, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas expérimenter ce que je parle au sujet de la résurrection de Pâques. Nous comprenons pourquoi Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire que c'est mieux pour vous. Que c'est un avantage pour vous, que c'est essentiel, dit-il, pour vous, que c'est en quelque sorte vital pour vous que je m'en aille, que je m'efface, parce que j'ai fini en fait ma mission sur terre. Il faut que je m'en aille. Et celui qui vient, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est lui qui va exécuter, c'est lui qui va accomplir dans vos vies au quotidien ce que j'ai accompli à la croix, dit Jésus. Il est l'exécutant, l'applicateur, en quelque sorte, si le mot existe, de l'œuvre de la croix. Il va prendre ce qui vient de la croix, il va prendre ce qui découle de la croix, il vient l'appliquer dans vos vies. Dans vos vies, il vient l'appliquer dans ta vie afin de faire de toi un témoin vivant. Donc, plus tu fais appel à lui, au Saint-Esprit, plus tu le chéris, le Saint-Esprit, plus tu l'apprécies, le Saint-Esprit, et plus il applique dans ta vie l'œuvre de la croix. Et plus encore, ton témoignage devient de plus en plus percutant dans ce monde. Bien-aimé, pour illustrer cela, Lorsqu'un fabricant conçoit un produit quelconque et le met sur le marché, il va aussi mettre en place certaines stratégies, en tout cas pour protéger son produit. D'abord, il procède par ce qu'on appelle le dépôt de la marque, le dépôt légal de la marque. Quand il a légalisé sa marque et que sa marque, justement, est officiellement légalisée, si un autre fabricant va concevoir, venait à concevoir la même chose, cela va lui causer des ennuis. Vous voyez ? Après le dépôt légal de la marque, vient ensuite la certification, le fait de sceller le produit. On a parlé du Saint-Esprit comme un sceau. Sceller le produit. Quand il a scellé son produit, mais c'est pour donner justement à son produit une spécificité, une particularité, de sorte que le produit va faire ce qu'on appelle la réputation du fabricant. Donc, un fabricant qui conçoit un produit et qui, à contrario, ne le certifie pas, peut perdre son produit. Tout ce qui n'est pas scellé finit par se perdre, par perdre sa valeur. Voilà pourquoi, quand Jésus vient accomplir le salut, il se reproduit en quelque sorte. À partir de sa résurrection, il va donner naissance justement à une race d'hommes que nous sommes devenus, vous et moi, et que j'aime appeler la race, l'espèce Emmanuel, Dieu avec nous. De ce fait, nous sommes devenus ce que j'appelle le produit de Dieu. Le produit de Dieu. Vous comprenez que si Dieu n'avait pas envoyé le Saint-Esprit sur nous pour nous sceller, pour nous marquer de son sceau, il pouvait nous perdre. Il pouvait nous perdre. Le Saint-Esprit est donc venu pour protéger le produit de Dieu que nous sommes devenus en Jésus-Christ, le produit de Dieu. Si Dieu n'avait pas envoyé le Saint-Esprit pour nous sceller, en tout cas, il aurait pu nous perdre. Quand un fabricant scelle son produit, en tout cas, le premier objectif qu'il poursuit, c'est que tous ceux qui verront le produit sur le marché réalisent clairement d'où vient ce produit, quelle est l'origine de ce produit. Le Père envoie le Saint-Esprit pour, en tout cas, identifier chaque croyant, en le mettant, en tout cas, en mettant sur son front, sur leur front, une marque de propriété privée. Nous sommes la propriété privée de Dieu, de sorte que lorsqu'on te voit, immédiatement, on peut savoir d'où tu viens. Lorsqu'on te voit, d'où tu viens. Tu n'as même pas besoin de parler. Mais en te voyant simplement, on sait déjà, en tout cas, d'où tu viens et à qui tu appartiens. Quand vous voyez un enfant de lion, c'est bien que lui, c'est un lion. Le sceau révèle donc l'authenticité et l'original du produit. Et dans le monde spirituel, quand Satan te rencontre, il réalise que tu es la propriété de Jésus-Christ. Toi-même, tu peux ne pas le réaliser, tu peux ne pas le savoir, mais lui, l'adversaire, quand il te voit, il le saura, forcément. Et parce que ça se passe dans le domaine spirituel, il le verra forcément. Lorsqu'un fabricant scelle son produit, il vise aussi la protection de la qualité du produit. Car si le produit n'est pas scellé, il peut perdre sa valeur. Parce que les gens vont tellement trafiquer le produit que l'on ne saura plus faire la distinction entre l'original et la contrefaçon, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient te sceller en tant que croyant, c'est pour te protéger ton statut d'enfant de Dieu que tu es devenu. La Bible dit qu'ils vont nous infiltrer. Ils seront parmi nous. et faux croyants. Mais ils ne pourront jamais devenir justement ce que nous nous sommes devenus en Christ, parce que nous avons été semés du Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre maintenant la réponse de Jésus lorsque les disciples lui ont posé la question de savoir, mais d'où vient l'ivraie ? D'où vient l'ivraie, maître ? N'est-ce pas le bon grain que tu as semé ? Mais d'où vient l'ivraie ? Et Jésus a répondu en disant, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mon produit est scellé en quelque sorte. Avec le temps, on finira par savoir qui est de moi et qui ne l'est pas. Quand tu reçois réellement le Saint-Esprit, frères et sœurs, cela ne se cache pas. En outre, quand tu ne l'as pas reçu et que tu fais semblant, cela finit toujours aussi par se savoir. C'est juste une question de temps. Jésus dit, laissez ensemble le bon grain et l'ivraie, et vous verrez que l'ivraie va se distinguer d'elle-même très bientôt. Il y a des choses dans le spirituel. Si tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas le devenir. Lorsqu'un fabricant scelle son produit, c'est aussi pour lutter contre le piratage, dans la mesure où tout ce qui a de la valeur, tout ce qui a de la valeur est convoité. Mais je vous assure que nous avons de la valeur. Et tout ce qui a de la valeur est convoité avec Dieu. Nous avons de la valeur. Puisque vous êtes devenus des enfants de Dieu, l'ennemi va vous convoiter. Vous allez être convoité à cause de votre nouveau statut et de votre nouvelle position en Christ, nous dit la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, il va y avoir des chrétiens piratés, des infiltrés, des agents du diable dans l'église. Ils étaient avec nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Oui, lorsqu'un fabricant scelle son produit, c'est pour garantir les ventes et le succès de son produit sur le marché. Lorsqu'un produit n'est pas scellé, il peut dégringoler, comme on dit, en vente. Dieu sait que si tu n'es pas scellé, tu ne pourras pas accomplir les exploits selon qu'il est écrit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il faut être scellé dans la mesure où la qualité de ta marche avec Dieu dépend de la qualité aussi de l'onction qu'il a déposée sur toi, qu'il y a sur toi. Puisque le produit fait la réputation du fabricant, donc un produit qui se vend bien sur le marché fait la gloire du fabricant. Dieu, en scellant son produit, frères et sœurs, se rassure que son produit marche. Dieu, en scellant son produit, se rassure que son produit prospère selon ce qui est dit dans la parole de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Oui. Voilà pourquoi Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Pour que nos vies, frères et sœurs, soient des vies d'exploit. Il nous a scellés pour que nos vies soient des vies des conquérants vainqueurs, des vies de ceux qui font la réputation de leur Dieu. Pour ne pas dire la publicité de leur Dieu, oui. Des vies qui marchent, des vies qui avancent. Voyez, devant la mer Rouge, alors qu'il y a l'armée de Pharaon derrière, mais des vies qui avancent en mettant le pied dans l'eau. La mer Rouge, des vies qui ne s'arrêtent pas au désert, mais des vies qui avancent malgré les difficultés du désert. Il faut avancer. Des vies qui avancent devant le Jourdain. Oui, des vies qui avancent devant les murailles de Jéricho. Des vies qui avancent devant l'entrée de Canaan. Même si on vous dit que là-bas, il y a des fils de géants. Les fils d'Anak, ils sont géants et nous sommes comme des sauterelles devant eux. Des vies qui avancent, des vies qui deviennent des véritables témoins, de sorte que quand les gens nous voient, ils ont envie de nous ressembler. Quand les gens nous voient, oui, quand les gens nous voient, frères et sœurs, ils ont envie de suivre Jésus quand ils nous voient. Quand ils nous voient, ils ont envie de devenir aussi comme nous, enfants de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un fabricant scelle son produit, c'est aussi pour garantir la bonne utilisation. Vous voyez des produits, ce qu'on appelle des notices, des manuels d'utilisation. La bonne utilisation. Tout produit scellé témoigne un bon fonctionnement. La garantie que ça marche pour retirer le meilleur du produit. Donc, quand le Saint-Esprit vient, frères et sœurs, ce n'est pas juste pour descendre sur toi afin que tu dises, oui, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Non, en réalité, Dieu protège son produit que tu es et il veut en outre garantir le succès de son produit que tu es devenu. À la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu répand le Saint-Esprit pour sécuriser ce que Jésus s'est acquis au prix de son sang et donner au produit que nous sommes devenus la garantie d'un succès. La garantie d'un succès. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour montrer que le produit justement que tu es fait partie de la race des vainqueurs. Pentecôte, frères et sœurs, est une fête importante pour l'Église. Pentecôte, importante. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il établit ce qu'on appelle des niveaux d'onction. Voyez ? Alors, premier niveau d'onction, c'est la puissance qui descend sur ta vie. Et c'est cette puissance qui te permet de naître de nouveau. Cette puissance qui permet à tout enfant de Dieu, Jean chapitre 3, de passer par la nouvelle naissance. Il n'y a pas une seule personne qui peut naître de nouveau et expérimenter le premier pas dans le plan de salut de Christ et accomplir sans l'onction, sans avoir reçu l'onction du Saint-Esprit. Tu ne peux pas expérimenter ce premier pas, passer par cette nouvelle naissance tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est le premier niveau d'onction. C'est l'onction qui fait naître de nouveau, en quelque sorte. Donc, le premier niveau d'onction d'un enfant de Dieu, c'est l'onction qu'il reçoit à sa naissance. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 dit « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. » L'apôtre Paul parlait aux Corinthiens. Il dit, c'est lui, c'est Dieu qui nous a tous oints. C'est une onction générale. Il n'est donc pas question ici seulement des pasteurs, des apôtres, je ne sais qui. Il s'agit de tous ceux qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau. Il y a donc une onction de base que toute personne qui croit dans l'œuvre de la croix reçoit lors de la nouvelle naissance pour devenir justement le produit de Dieu. Un autre verset qui va dans le même sens, c'est 1 Jean, chapitre 1, chapitre 2, verset 20, qui déclare « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » L'onction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de la Genèse à Apocalypse, frères et sœurs, le Saint-Esprit a toujours été là. Mais la Pentecôte, c'est la manifestation officielle. C'est ce qu'on appelle une entrée officielle de l'Esprit dans son ministère, officielle. À la création, le Saint-Esprit était là, avant toute chose. Le Père était là, et le Fils aussi était là. Mais dans l'ancienne alliance, vous voyez, le Saint-Esprit était donné seulement à trois catégories de personnes, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Mais il était là présent. Maintenant, après la mort de Jésus, après la résurrection et l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est relâché dans ce qu'on appelle la dispensation actuelle pour accomplir, je disais, son ministère. Et nous sommes en plein dans cette période, dans cette dispensation de l'Esprit. Pentecôte, frères et sœurs, devient donc ce qu'on appelle la porte officielle, Pentecôte. Bien que l'Esprit ait été là, parce que nous voyons dans la Bible, Jésus soufflait sur des gens et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais le Saint-Esprit n'était pas encore, en ce moment-là, l'acteur majeur, comme il va l'être dans les Actes des Apôtres. Dans le Nouveau Testament, l'acteur majeur était Jésus, bien que le Père soit là et que l'Esprit aussi soit là. Dans l'Ancien Testament, j'ai dit l'acteur majeur, c'était le Père, bien que Jésus soit là et que l'Esprit aussi soit là. À partir des Actes des Apôtres, l'auteur majeur devient donc le Saint-Esprit, bien que le Père soit là et que le Fils aussi soit là. C'est pourquoi un chrétien qui ne comprend pas la Pentecôte risque de rater beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses de la part de Dieu. Jésus a dit lui-même, « Il vous enseignera toutes choses » en parlant de l'Esprit. Donc c'est mieux pour vous que je l'éclipse afin qu'il vienne. C'est un acteur majeur qui va rentrer en scène. Maintenant, après la nouvelle naissance, il y a un autre niveau d'onction que le Saint-Esprit t'accorde pour, en tant qu'enfant de Dieu, pour réaliser tout ce que Dieu t'a appelé à faire. L'onction du service. Il n'y a aucune œuvre qu'un homme peut faire qui puisse satisfaire Dieu s'il n'a pas été impacté par le Saint-Esprit. Car Dieu n'approuve que ce qu'il a initié, lui. Et tout ce qu'il n'a pas initié, il ne l'approuve pas. Donc tout ce qui ne vient pas de l'Esprit Saint, Dieu ne va pas l'approuver. Dieu n'exauce que ce qui sort de lui-même et qu'il met dans le cœur de l'homme pour que l'homme puisse à son tour l'exprimer. Nous avons donc tout à gagner, frères et sœurs, en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies afin qu'il initie en nous justement des choses qui viennent du Père. Ce sont, la Bible dit, des bonnes choses que Dieu a préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, frères et sœurs, à notre niveau, c'est qu'il nous amène à devenir des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Le Dieu qui a transformé un pécheur en un chrétien, en lui donnant sa vie divine à travers l'œuvre de Jésus à la croix, seul lui, seul ce Dieu, peut aussi bien transformer un chrétien, mais qui est encore charnel, en un chrétien spirituel. Parce que la Bible parle de chrétien, mais charnel, mais aussi de chrétien spirituel. C'est le Saint-Esprit qui peut transformer un chrétien charnel en un chrétien spirituel, en lui donnant sa vie avec plus d'abondance, lorsqu'il le désire. La foi en Christ, frères et sœurs, fait du chrétien charnel un chrétien régénéré. Ensuite, l'obéissance au Saint-Esprit va faire de lui un chrétien spirituel. Donc, de même qu'une juste relation avec Christ engendre un chrétien, une relation appropriée aussi avec le Saint-Esprit donne naissance à un homme spirituel, dit la Bible. D'où seul le Saint-Esprit peut faire que les croyants deviennent spirituels. C'est son œuvre d'amener les croyants, en quelque sorte, à la spiritualité. On entend beaucoup parler de ce mot, une spiritualité sans Dieu, mais en réalité, la vraie spiritualité vient du Saint-Esprit, dans la mesure, dans la manière dont Dieu a disposé son plan de salut. Frères et sœurs, la croix de Golgotha, la croix accomplit ce qu'on appelle l'œuvre négative, en quelque sorte, qui consiste à quoi? Qui consiste à détruire tout ce qui vient d'Adam, qui est en nous. La croix élimine, procède par élimination dans nos vies. La croix procède par soustraction, enlève, enlève, enlève. Et vous voyez que le Saint-Esprit, lui, lorsqu'il exécute le plan de Dieu, il procède par addition. La croix enlève et le Saint-Esprit vient mettre, additionne. C'est comme ça que les choses se passent. C'est l'œuvre positive. Et on parle d'addition. Il s'agit en fait d'édifier en nous tout ce qui vient de Christ. Édifier, c'est un mot fort qui signifie construire, vous voyez, une tour. Édifier. C'est la croix qui rend la spiritualité possible aux croyants, mais c'est le Saint-Esprit qui rend les croyants spirituels. Être spirituel signifie donc appartenir au Saint-Esprit. Il fortifie avec puissance l'esprit de l'homme, le Saint-Esprit, l'esprit humain, pour qu'il gouverne l'homme tout entier. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. De sorte que dans notre recherche de la spiritualité, nous ne devons jamais négliger le Saint-Esprit. Cependant, nous ne devons pas non plus mettre la croix de côté, parce que la croix et l'Esprit travaillent en quelque sorte la main dans la main. La croix conduit toujours les hommes au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi, de son côté, conduit les hommes à la croix, immanquablement. Les deux n'opèrent jamais séparément l'un de l'autre, mais toujours ensemble. Frères et sœurs, la croix de Jésus, je sais que vous le savez, est une merveille. La croix de Christ, une merveille. C'est le fondement de tout ce qui est spirituel, la croix de Jésus. Chercher une spiritualité sans passer par la croix de Jésus, cela n'a pu mener nulle part, mais vraiment nulle part. Le plan et le but de son action de la croix, c'est d'unir l'esprit du croyant au Seigneur ressuscité, mais pour en faire un seul, je dis bien un seul esprit. C'est fort, mais c'est ce que l'apôtre Paul dit, celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit, un seul esprit. Il n'est pas dit deux, un seul esprit. La croix doit se faire sentir en profondeur dans la vie d'un homme, pour lui débarrasser de tout ce qui en lui est naturel et en clair au péché, la croix. Alors seulement, il pourra participer positivement à la vie du Seigneur et devenir un seul esprit avec lui. Et le résultat, dit l'apôtre Paul, c'est effectivement servir Dieu dans un esprit nouveau. Romains chapitre 7 au verset 6. Frères et sœurs, là où la croix manque, là où la croix fait défaut, vous voyez que l'huile d'onction du Saint-Esprit est absente. Là où la croix fait défaut. Par la mort du Seigneur Jésus, Dieu prononce son verdict sur tous ceux qui sont en Adam. Tous ceux qui sont en Adam. De la même manière que le Saint-Esprit n'est pas descendu avant que Jésus ne meure sur la croix, de même, le croyant ne peut pas recevoir cette puissance si la croix de Jésus n'a pas encore accompli l'œuvre qu'il faut dans sa vie. C'est impossible. Notre but, c'est d'être des hommes spirituels. Un homme spirituel ne suit plus jamais les penchants de son corps, de sa chair. Non, il cherche à suivre uniquement les désirs de l'Esprit de Dieu. Les sentiments d'un homme spirituel sont entièrement sous le contrôle de l'Esprit. Un chrétien spirituel doit connaître le Saint-Esprit dans son esprit par une expérience réelle. Bien-aimé, dans le Seigneur, Pentecôte est importante parce que c'est à partir de là que commence l'Église que nous sommes. L'Église. Jésus avait dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16, verset 18. Donc, dans son vrai sens du terme, l'église vivante, rachetée par la croix de Christ, vivifiée par la puissance divine, engagée dans l'action et l'adoration, cette église-là, en tout cas, est vraiment née le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur un petit groupe de disciples, nous dit le livre des Actes des Apôtres, les avait galvanisés et les avait lancés justement dans l'action. Cette venue avait fait de l'Église la venue du Saint-Esprit. Et donc, vous voyez que l'Église, frères et sœurs, n'est jamais l'Église quand elle ne communie pas, en quelque sorte, avec l'événement de la Pentecôte. Jamais. Jamais l'Église. Ce n'est que lorsque l'Église est remplie du Saint-Esprit de Dieu que l'on peut dire qu'elle est l'Église au sens plein du terme. Il est donc impossible d'imaginer un homme ou un groupe d'hommes ou même l'Église justement chargée de gérer le Saint-Esprit. Impossible. Non, c'est l'Église qui est soumise à l'Esprit. L'Esprit, lui, est souverain, l'Esprit, et non l'Église, l'Esprit. Que celui qui a des oreilles pour écouter quoi? Ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est l'Esprit qui dit aux Églises d'écouter. Cette exhortation sonne comme un refrain, d'ailleurs, tout au long des chapitres 2 et 3 du livre d'Apocalypse. Elle est là pour nous rappeler la présence dynamique de l'Esprit vivant, de l'Esprit de Dieu dans l'Église véritable. L'Église, frères et sœurs, n'est pas née d'un simple rassemblement d'hommes et de femmes qui pensent la même chose et que rapproche un intérêt commun. Non, elle est née de l'action de l'Esprit, l'Église. Aucune forme humaine, aucune, ne pourra jamais donner naissance à l'Église de Dieu. Aucune. Seul Dieu agissant dans les cœurs peut y parvenir. Seul Dieu. Et partout où se trouve l'Église, la véritable Église, l'Esprit de Dieu lui-même est à l'œuvre. L'Église ne suit pas son propre chemin comme elle l'entend, non. Elle a été créée par l'Esprit, elle est habitée par l'Esprit, elle est la communauté de l'Esprit. Elle va là où l'Esprit la conduit, l'Église, frères et sœurs. Il en est de même de la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie dans laquelle Dieu, en Esprit, a sa demeure permanente. Elle tire sa vie en lui. Là où ce n'est pas vrai, l'Église cesse en réalité d'exister. Selon l'apôtre Paul, pour finir ce message, frères et sœurs, le Saint-Esprit est la clé. Selon l'apôtre Paul, le Saint-Esprit est la clé qui permet à la foi de connaître Dieu. Et d'ailleurs, de se connaître soi-même. Parce que l'homme ne se connaît pas. Mais le Saint-Esprit est la clé pour connaître Dieu, pour se connaître. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Seul l'esprit de l'homme connaît l'homme. Et il est dit aussi que seul l'esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Seul l'esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit, c'est la clé pour connaître Dieu, pour connaître l'homme, pour se connaître soi-même. Mais aussi, l'esprit est aussi la clé justement pour comprendre l'Évangile et comprendre l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, ne limitons pas l'action de l'Esprit dans nos vies, ni encore moins dans la vie de l'Église, car en procédant ainsi, c'est Dieu lui-même que nous limitons et c'est l'avancement de son royaume que nous pénalisons lorsque nous limitons le Saint-Esprit. Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute ce que l'Esprit dit à chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce message nous a renseigné sur l'importance de la Pentecôte, mais en réalité sur le bien fondé de la venue même du Saint-Esprit. Que pouvons-nous faire dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, dans l'Église, en tant que structure qui est née de la puissance de l'Esprit, que pouvons-nous faire sans le Saint-Esprit? Rien du tout qui puisse te plaire. Nous réalisons, notre Dieu, notre Père, que nous avons encore davantage besoin de cette présence. Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais c'est d'abord une personne. Nous avons besoin de cette personne, la personne même du Saint-Esprit dans nos vies. Nous voulons l'écouter, lui obéir et non pas justement l'attrister lorsqu'il est là. Nous voulons faire la volonté de l'Esprit, accomplir ce que l'Esprit nous met à cœur d'accomplir. Seigneur, rends-nous sensibles à la présence de l'Esprit dans nos vies. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la présence de l'Esprit sur la terre. Nous te rendons grâce pour la présence de l'Esprit dans nos vies. Et nous te rendons grâce pour la présence de l'Esprit dans l'Église, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Merci Saint-Esprit, nous aimons ta présence, nous chérissons ta présence. Nous voulons encore davantage plus de ta présence. Viens et remplis-nous de toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.